J'en ai parlé dans le commentaire avec Michel Langevin ce matin, comme quoi j'avais hâte de lui parler à Luc Lavoie concernant tout le dossier entourant Doug Ford. Qui a fait plier Doug Ford en Ontario? C'est la question que je lui pose à Luc Lavoie, analyste politique et animateur, notamment au FM 93 à Québec. Bon lundi, Luc.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, Doug Ford, la semaine dernière, était intransigeant et on dirait qu'il y a eu de la mollesse dans le genou à la fin de la semaine. C'est pas lui, en tout cas, je serais surpris que ce soit lui qui a eu un éclair de génie. Qui a fait des pressions en haut pour que Ford plie dans le dossier des Franco-Ontariens?
Je dirais que Caroline Mulroney a joué un rôle de très important, sans aucun doute. Ça m'apparaît évident même. Caroline Mulroney, qui est quelqu'un qui a été éduqué en français, en Ontario d'ailleurs, dans un lycée français à Ottawa, le lycée Claudel. Elle est la fille de Brian et M. Mulroney, lui, son entrée en politique, les gens l'oublient, mais son entrée en politique, il a été élu chef, il a été élu député de Saint-Claude Nova dans une élection partielle en septembre. Il a fait son entrée à la Chambre des communes et dès le premier jour, Trudeau il a envoyé une pleure de bananes sous les pieds qui était une motion demandant de condamner des gestes posés par le gouvernement du Manitoba qui étaient nuisibles aux intérêts des Franco-Manitobains. Et Trudeau était convaincu, les libéraux étaient convaincus que Mulroney allait trébucher parce qu'il y avait au sein même de son caucus des gens qui appuyaient la démarche du Manitoba. Et il était parti, il s'était rendu à Winnipeg, il avait mis dans la même salle tous ceux qui étaient pour, tous ceux qui étaient contre au sein de son parti. Puis il leur a annoncé que dorénavant, la politique du Parti conservateur serait d'appuyer les francophones hors Québec. Ça avait été vu comme un geste de courage et de leadership, aussi un geste pour dire à ses troupes, essayez-vous pas, on ne peut pas aller par là. Alors je suis convaincu que Caroline a été en bonne partie influencée par ça. Et en plus, je pense que c'est au fond de son cœur, je veux dire, Caroline certainement pas anti-francophone. Elle parle français comme vous et moi. Et si je l'appelle Caroline, c'est parce que je la connais depuis qu'elle a 7 ans, je pense.
Ah ouais.
Évidemment que c'est quelqu'un, Caroline, qui a probablement, qui envisage peut-être un jour d'aller en politique fédérale. Elle ne pouvait pas se permettre de lancer sa carrière sur une affaire comme celle-là parce que c'est le genre de dossier qui colle à la peau. Alors, peu importe toutes les raisons, le fait est que Ford a reculé. Même s'il y en a qui aujourd'hui essaient de dire « Ouais, ben c'est passé, puis l'université, puis patati patata », le recul était quand même très marquant, on ne peut pas le nier.
Et tu parles de l'exemple de Mulroney. Je l'avais lu dans la biographie écrite par Guy Gendron il y a de ça 4 ou 5 ans. Ça avait été un point tournant, ça, pour Mulroney, qui l'avait conduit jusqu'à l'élection de septembre 84. Là.
C'est clair. Je veux dire, son balayage Québec en 1984 avec 56 députés, ça a commencé là. Il y avait des bleus au Québec qui étaient là et qui attendaient leur tour quasiment depuis l'Union nationale puis depuis le gouvernement de Stephen Baker, mais ils se voyaient bien qu'ils ne pourraient pas vendre leur parti au Québec s'ils n'arrivaient pas à se positionner de telle sorte qu'ils apparaissaient comme étant des défenseurs du fait français au Canada. Et dès lors que Mulroney a posé ce geste-là, ça a été un renversement de situation, ça a été le début de la fin pour les libéraux.
Andrew Scheer a été, disons, derrière les rideaux pratiquement jusqu'à jeudi dernier, a accordé notamment une entrevue à Joël-Denis Bellavance, une entrevue qui s'est faite entièrement en français. Ça a été quoi, lui, son rôle là-dedans? Est-ce qu'il a appelé Doug Ford en disant, ben là, t'es peut-être en train de nous mettre dans boîte au niveau Parti conservateur fédéral. Est-ce que tu crois qu'il y a eu une intervention des conservateurs fédéraux dans ce dossier-là?
Je ne le sais pas plus que toi, mais ça ne serait pas étonnant. Ceci étant dit, il faut faire attention. Andrew Scheer est à la tête d'un parti conservateur qui n'est pas tout à fait la même famille que Doug Ford. Ce sont plus ce qu'on appelait autrefois des progressistes conservateurs. Andrew Scheer vient de la Saskatchewan, vient donc de cette aile droite du parti, mais il a choisi de se positionner au centre pour l'emporter lors du leadership. Il a joué un rôle où il n'a pas bien paru, tu comprends? au moment où les coupes arrivaient, lui, il célébrait avec Doug Ford dans un congrès. Disons que c'est pas sa meilleure prestation jusqu'à maintenant.
Mm-hmm. Est-ce que ça serait éventuellement, dans le cas d'une défaite, à la prochaine élection, dans un an, ça serait une occasion pour Caroline Mulroney de transférer entre Queen's Park et Ottawa, peut-être?
Ça, je ne sais pas comment répondre à ça, d'autant plus que Andrew Scheer, s'il traverse la prochaine élection et qu'il devient chef de l'opposition, ce qui m'apparaît incontournable, et qu'il fait belle figure, il y a des fortes chances que le parti va le laisser en place pour une deuxième élection. C'est pas automatique de se faire éjecter d'un parti au lendemain d'une défaite.
Oui, c'est vrai. Énoncé économique maintenant, il y en a eu un à Ottawa. Encore une fois, un peu comme la souffleuse, on pèle les déficits par en avant. Ça devait être presque à la fin du présent mandat. On est rendu, je pense, en 2023 ou 2025. Ça semble être le modus operandi là, au fédéral.
J'en reviens pas, pour dire le vrai. Je n'en reviens pas. Ils sont en train de bâtir une dette en avant de nous autres. Je veux dire, l'an prochain, la dette va coûter juste en intérêt, là. Ça va être un plus gros item au budget fédéral, 33 milliards de dollars. Le problème avec ça, c'est que on vit une période de prospérité. Et la théorie de John Maynard Keynes, qu'on applique depuis les années 30, était que, c'était un grand économiste des années 30, la théorie reposait sur l'idée suivante. Quand le pays ou quand l'économie s'en va en récession, l'État emprunte et dépense pour essayer de la stimuler pour la redécoller. Et quand la prospérité s'installe, l'État paye ses dettes. Mais là, la prospérité est constante depuis l'élection des libéraux, depuis 2015. La lancée se poursuit. Il continue d'accumuler des déficits par-dessus déficits par-dessus déficits. Je comprends pas, puis il y a toujours un peu d'argent pour un, puis un peu plus pour l'autre, puis je trouve ça, à la limite, irresponsable. Il n'y a même pas d'horizon pour savoir quand est-ce qu'on va payer un peu de la dette. Je veux pas devenir trop technique, mais les gens savent peut-être ou savent pas, je sais pas, que la dette en soi, c'est pas un chiffre absolu. La dette est importante dans un ratio, une équation qui tient compte du PIB. C'est quoi le pourcentage de la dette par rapport au PIB? Là, au Canada, on est rendu à 80 quelques pourcents. Là. Je veux dire, ça commence à être très sérieux. Et il va falloir, à un moment donné, que quelqu'un se réveille.
Parce que le jour où est-ce qu'on subit un coup dur, peu importe quel type de coup dur, on va être obligé de la payer, cette dette-là, et les taux d'intérêt risquent d'être un peu plus élevés, là.
Et comme tu sais, Mathieu, il y aura une récession, parce qu'il y a toujours une récession. L'économie est cyclique, et depuis, ça fait maintenant 7 ans à peu près qu'on est en croissance.
Oui.
C'est clair que la récession, elle doit s'en venir, on la sent venir. Quand ça va arriver, si on part avec un déficit de 18 milliards, on va monter à 45, dans le temps de le dire, c'est ça que je trouve irresponsable.
Mm-hmm. Au Québec, il y aura un énoncé économique également. Qu'entrevois-tu?
Des finances qui sont en bonne santé, c'est clair. S'il y a une chose dont a hérité François Legault, c'est bel et bien d'une situation financière presque unique au Canada, avec des surplus. Il a essayé de faire valoir que les surplus identifiés par la vérificatrice générale n'étaient peut-être pas aussi élevés que ce qu'elle disait, mais ça, j'ai trouvé ça un peu plus cheap qu'autre chose. La vérificatrice générale n'est pas une nomination partisane, c'est une nomination de l'Assemblée nationale. Et pourquoi remettre en doute sa compétence ou sa capacité d'analyser la situation? Un peu spécial, là. Mais donc, il va avoir un énoncé économique qui va nous dire combien lui estime qu'il a de surplus, parce que c'est de surplus dont on parle.
Mm-hmm.
Et comment il va les utiliser, ces surplus? Est-ce qu'il va lancer à la toute vapeur son programme de maternelle obligatoire à 4 ans? Je ne sais pas. Où est-ce qu'il va mettre son argent? Va-t-il aller dans des infrastructures? On ne sait pas non plus. Ça va être intéressant de le suivre.
Lorsque Pauline Marois est rentrée au pouvoir en 2012 et par la suite Philippe Couillard, on sentait que la première année, on voulait travailler beaucoup sur les coupures, on dirait pour s'en garder un peu plus pour l'élection. Est-ce que tu as l'impression que, un, ça va être la façon de faire de la CAQ et que, deux, on pourra voir ça dans l'énoncé économique où on va attendre au budget en mars prochain?
Ce ne sera certainement pas la façon de faire de la CAQ, parce que contrairement à Pauline Marois et à Philippe Couillard, écoute, il arrive au pouvoir avec un surplus. Il n'est quand même pas pour commencer à faire des coupes. Il a appris sa leçon à regarder les libéraux avant lui, mais quoi qu'il en soit, comment veux-tu faire des coupes quand t'es en surplus? En fait, ce qui est important, c'est de conserver le fonds des générations qui sert justement à faire face à la dette et de continuer à gérer de façon rigoureuse. Je pense que lors de leur rencontre, après la défaite de Couillard du 1er octobre, Couillard et Legault, même devant les caméras, Legault avait reconnu qu'on lui laissait une situation enviable au plan économique, au plan financier. Alors, ça va être ça qu'on va savoir. Ça va être quoi le chiffre sur lequel on va vivre et peut-être quelles seront ses priorités de la première année.
Merci, Luc. Bonne semaine à toi.
Merci, au revoir.
Bien, au revoir. Luc Lavoie, analyste politique et animateur du réseau Cogeco.